des moments difficiles, ben c'est bien de... On devrait se rappeler de ça toujours, mais principalement, particulièrement, dans les temps que ça va mal, on devrait se rappeler ben, que le Seigneur a passé par là. Il ne nous demande pas de passer par où, il n'a pas passé lui-même la souffrance. De se rappeler notre engagement quand on a dit « Je veux te suivre, Seigneur. » Coûte que coûte. Probablement que vous avez dit ça au Seigneur. Coûte que coûte, Seigneur, je veux te suivre. De se rappeler que la fin est proche, que Dieu est juste, même si on, souvent on pense que c'est injuste. L'importance de la prière. Et se rappeler aussi qu'on est membre d'un corps. On est ensemble. Un corps de Christ. Et ce matin, bien, on peut regarder la première page de la présentation. J'ai intitulé le message « Comment ne pas gaspiller notre souffrance? » Tu peux y aller avec ta souris ou les petites flèches. « Comment ne pas gaspiller notre souffrance? » Et on va lire ensemble 1 Pierre 4, les versets 12 à 19. 1 Pierre 4. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Seigneur, on veut juste regarder à ces quelques versets et fais-nous du bien, Seigneur. Parle à nos cœurs, ta parole est vivante, efficace. On veut encore expérimenter cette vérité ensemble ce matin. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Donc, comme j'ai dit la dernière fois, chapitre 4, clairement, on voit le contexte. Que les souffrances ici, c'est vraiment l'idée de la persécution pour le nom de Christ. Les chrétiens qui sont persécutés à cause qu'ils veulent suivre le Seigneur Jésus. Alors, sans perdre de vue le contexte, je pense qu'on peut appliquer à la plupart, ces principes-là, à la plupart de la souffrance qu'on peut vivre. Parce que je ne pense pas qu'on est persécuté ici au Québec. Je pense que ça va peut-être venir éventuellement. On ne va pas nécessairement toujours être libre comme on l'est. C'est vraiment une bénédiction qu'il faut remercier le Seigneur. Mais je ne veux pas perdre de vue le contexte, mais je veux qu'on applique plus large avec les souffrances qu'on vit dans nos vies, parce qu'on en vit tous des souffrances. Vous savez, la souffrance, elle a un but. La souffrance est un outil entre les mains de Dieu. Job 36, 15 nous dit « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » 1 Pierre, au chapitre 1, qu'on a déjà vu, ça nous disait « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ils étaient éprouvés vraiment, est au résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, un résultat qui est espéré de cette souffrance-là. La souffrance, quand on passe par là, nous fait prendre conscience de plein de choses. C'est souvent dans ces moments-là de la souffrance qu'on... vous m'entendez, vous connaissez l'expression, c'est quand on est sur le dos, qu'on regarde en haut. Quand on est sur le dos, on regarde à Dieu. On se pose des questions, on s'arrête, on s'examine. que la souffrance est un test que Dieu permet pour évaluer l'état de notre relation avec lui. Parce que c'est facile de dire que ma relation avec Dieu est solide, puis elle est bonne quand tout va bien. Mais quand on est éprouvé, c'est pas facile nécessairement d'avouer ça. Parce que quand on est éprouvé, des fois, on peut en vouloir à Dieu. Moi, je connais une personne qui vit des choses, sans rentrer dans les détails, sa santé, sa famille, difficile, puis je le sais que cette personne-là en veut à Dieu. Alors, c'est un test souvent que Dieu utilise pour voir comment notre relation est avec le Seigneur. Comme Job, hein? Job, on sait bien, il te suit, puis il t'aime parce que tu le bénis. Mais regarde, si tu arrives à faire du malheur, il va te maudire. Mais Job avait une relation solide, puis il n'aimait pas Dieu à cause des bénédictions. Il aimait Dieu parce que j'aime Dieu. Parce qu'il est Dieu. La souffrance peut nous purifier, nous discipliner, va nous rendre plus semblables au Seigneur Jésus. On est ici pour faire de toutes les nations des disciples. Dieu nous utilise, mais on sait qu'on s'en va à la ressemblance de Christ. Et Dieu le fait à travers souvent les épreuves de la vie, la souffrance. La persécution purifie l'Église. On l'a vu dans le premier chapitre, quand j'ai fait l'introduction, on a vu que la persécution, il y en a qui ont dit « Non, j'ai pas signé pour ça, je ne me suis pas engagé pour ça, alors ciao, bye, je m'en vais. » Alors, la souffrance, la persécution, elle a purifié l'Église. Elle a fait un ménage entre les vrais croyants et ceux qui étaient juste là pour ce que ça pouvait leur apporter. Et là, on pourrait continuer de donner toutes sortes d'exemples de qu'est-ce que la souffrance produit. Mais posons-nous la question, si la souffrance a un but, clairement, elle a un but. Est-ce qu'elle atteint ce but-là dans ma vie? Des fois, j'entends des gens qui souffrent, qui prient pour la victoire ou la délivrance plutôt. Puis des fois, je dis, « Seigneur, en fait, je ne veux pas prier pour la délivrance pour cette personne-là avant qu'elle ait appris ce que tu veux lui montrer. » Parce que si Dieu sert de ça pour nous amener quelque part, quand en chemin, on veut absolument que ça l'arrête, mais non, tu n'es pas arrivé à cette part-là. Prie pas pour la délivrance, prie pour que tu comprennes c'est quoi le but, le message, c'est quoi Dieu veut te montrer à travers ça pour que tu apprennes plus rapidement, pour qu'ensuite Dieu puisse te libérer de ça. Parce que s'il y a un but, est-ce qu'on l'atteint ce but-là? Et ce matin, je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut ne pas gaspiller cette souffrance-là? Parce que si on n'atteint pas le but, finalement on souffre en vain, mais c'est comme un gaspillage. J'ai passé par là, tu m'as permis ça dans ma vie, mais j'en voulais pas, je ne veux rien savoir, je me ferme les oreilles, puis finalement, ça ne servait à rien. Alors comment ne pas gaspiller cette souffrance-là si elle a un but? Et je vous propose 5 attitudes à avoir pour ne pas justement gaspiller notre souffrance. Et le premier, c'est, tu peux avancer Mario, tu peux avancer avec des flèches. Si tu vois que tu avances plus vite que moi, tu reculeras.
Oui.
La première attitude, c'est l'idée de l'accepter. Puis, ça peut paraître cliché, tu sais, comme, oui, c'est évident, mais ça demeure une vérité importante. Puis même si on le sait qu'il faut accepter les épreuves, c'est pas vrai qu'on est tout le temps capable de le faire avec la bonne attitude. L'accepter, je pense qu'on pourrait définir différemment, que c'est quoi accepter les choses que Dieu permet, mais je pense que c'est l'idée de s'humilier, de reconnaître qu'on est petit, puis qu'on est faible, puis que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, puis c'est Dieu qui permet et qui contrôle et qui a une raison pourquoi je vis ce que je vis présentement, même si moi je comprends pas. Pierre a dit à ses lecteurs, ne soyez pas surpris. Pas étrange ce qui vous arrive, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Puis Pierre utilise une métaphore assez forte hein, pour parler de l'épreuve, fournaise. On parle d'une épreuve brûlante. Peut-être qu'il fait référence au raffinage des métaux précieux, ce qu'on veut raffiner, hein, on met ça sur chaleur intense. Mais est-ce que c'est vraiment juste une métaphore? C'est intéressant que Pierre utilise cette métaphore-là pour ces chrétiens-là à cette époque-là. Parce que les persécutions, bon, même s'ils ne sont pas à leur pire présentement, durant le temps que Pierre écrit, on le sait qu'il y avait une persécution. Puis Néron, on sait, c'est été rapporté qu'il enduisait les chrétiens de poids, qui est comme une résine collante, très inflammable, et il allumait les chrétiens pour éclairer les jardins impériaux. Alors, on peut dire que les chrétiens étaient dans une épreuve brûlante, littéralement. Pierre dit, soyez pas surpris, c'est normal de ce qui vous arrive. C'est comme quoi? C'est normal. Et c'est intéressant parce que Jésus avait dit à Pierre que l'outrage, la persécution vont venir. Alors Pierre, il sait que ça s'en vient et là, il le voit de ses yeux. Mais quand on est dedans, c'est pas si facile que ça à accepter. On dit que c'est facile ou on dit, bien, regarde, il faut que tu acceptes. Oui, mais c'est pas si facile que ça d'accepter ce qu'on vit. Moi, j'ai pas passé par... J'ai passé par des épreuves, mais je sais que j'en ai d'autres qui s'en viennent éventuellement. T'sais, on parle de la mort, de perdre un être cher. Je sais que ça va s'en venir. On va tous arriver là. Mais quand ça arrive, on sait qu'il faut l'accepter, mais c'est pas si facile que ça. Vous savez, chaque société dans le monde moderne, et même dans l'histoire, a une certaine approche par rapport à la souffrance. Pour donner un sens à la souffrance, même les non-croyants. Parce qu'on ne comprend pas ça vient de où, on ne comprend pas pourquoi on a ça, cette souffrance-là, mais on veut y donner quand même un sens. Donc, chaque société a une approche différente. Et c'est intéressant parce qu'il y a des sociologues, ceux qui étudient le comportement des sociétés, puis des anthropologues qui ont comparé les différentes cultures dans le monde et dans le temps, pour voir comment chacune de ces sociétés-là, ces pays-là, éduquaient leurs citoyens à faire face aux souffrances. Et là, je ne veux pas vous faire toute une présentation de leur étude, mais ils ont remarqué que notre culture occidentale, contemporaine ici, est l'une des plus faibles et l'une des pires de l'histoire. Autrement dit, on n'a pas bien appris à faire face aux souffrances. Si on recule au temps médiéval en Europe, un enfant sur cinq mourait avant un an. Une famille enterrait en moyenne la moitié de ses enfants avant l'âge de 10 ans. Donc moi, j'ai cinq filles, m'en resterait trois ou deux. Et je peux vous dire lesquelles ne seraient plus là parce que j'ai passé 12 jours à l'urgence hospitalisée avec Emma quand elle avait 2 ans. Donc, elle serait décédée, c'est sûr, sans les soins qu'elle a eus. Et Meredith aussi a été hospitalisée quelques jours, probablement qu'elle n'aurait pas réussi à s'en sortir. Donc, je sais même lesquelles ont passé, seraient plus dans ma famille présentement. Et en plus, les enfants qui mouraient, très souvent, ils mouraient à la maison, devant les yeux des parents. Alors, imaginez si, dans l'église, tout le monde... Oh, la moitié de ses enfants, ils les ont vus mourir avant l'âge de 10 ans. Ce n'est pas le cas du tout dans notre société. Il y en a qui ont eu des enfants qui ont décédé. J'avais un croyant qui est dans notre église, qui a perdu sa jeune fille, mais ce n'est pas la majorité, c'est une minorité qui ont vécu ça. Mais dans l'époque médiévale, ce n'était pas une majorité, c'était tout le monde. Donc la vie de nos ancêtres était remplie de beaucoup plus de souffrances que nous, notre vie. Pourtant, quand on regarde, parce qu'on a retrouvé dans des journaux intimes, si les gens écrivaient des journaux intimes, peut-être plus qu'aujourd'hui, dans des documents historiques, on a découvert que nos ancêtres supportaient beaucoup mieux la souffrance que nous. Parce qu'ils cherchaient des moyens à être édifiés par la souffrance. Aujourd'hui, en général, on cherche plus à éviter et à l'éliminer. C'est facile aujourd'hui parce qu'on a plusieurs moyens pour y arriver. On a la médecine et la médication, on a la drogue, on a l'aide médicale à mourir. C'est comme si on a désappris à faire face à la souffrance. Puis aujourd'hui, on a plutôt l'instinct de tout de suite vouloir l'étouffer, l'éliminer. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les médicaments. Mal à la tête, on prend la petite Tylenol. Mon épouse elle a des migraines extrêmement intenses, puis elle s'injecte un médicament très fort quand elle n'est plus capable d'endurer. Donc, je ne suis pas du tout contre les moyens d'apaiser nos souffrances, mais il ne faut pas étouffer ce que Dieu a à nous dire ou ce que Dieu veut nous enseigner à travers ces épreuves-là qui permettent dans nos vies. C'est souvent quand on étouffe, bien, on veut aussi des fois étouffer même la voix de Dieu. Il y a un docteur, tu peux prendre le prochain, ouais, c'est docteur Paul Graham aux États-Unis, il dit « J'ai rencontré une société qui cherche à tout prix à éviter la douleur. Les patients vivaient à un niveau de confort supérieur à ceux que j'avais précédemment traités, mais ils semblaient beaucoup moins équipés pour gérer la souffrance et beaucoup plus traumatisés par celle-ci. » Si on regarde aux premiers chrétiens, les premiers chrétiens, on a retrouvé dans les écrits des écrivains du 1er siècle, qui disent que les premiers chrétiens souffraient et mouraient mieux que les autres personnes. Comment on fait pour souffrir et mourir? Ben, il y avait une meilleure attitude dans tout ça. Cyprien, qui est un évêque écrivain au 3e siècle, il raconte, lui, comment les chrétiens, quand il y avait des fléaux, des épidémies, les chrétiens restaient avec leurs proches pour veiller sur eux. Tandis que les non-croyants, ils s'enfuyaient pour ne pas attraper les maladies. Mais les chrétiens, ils restaient, ils n'abandonnaient pas leurs malades, puis souvent, bien, ils attrapaient la maladie, eux autres aussi, et ils faisaient face à la mort avec un calme qu'ils ne voyaient pas ailleurs, chez les autres personnes non-croyantes. Tu peux mettre la prochaine. Il y a un philosophe athée qui s'appelle Luke Ferry, et ça, c'est un livre qui est écrit, Philosophical Guide to Living. Au chapitre 3, il a intitulé son chapitre « La victoire du christianisme sur la philosophie grecque ». Et je trouve ça intéressant parce que lui, dans ce qu'il dit, c'est qu'il croit que l'approche chrétienne envers la souffrance était une des raisons que le christianisme a vaincu la philosophie grecque. Puis que le christianisme, c'est pour ça qu'elle est devenue la vision dominante durant l'Empire romain. Les chrétiens faisaient face à la souffrance différemment. C'était quoi? C'est parce qu'il y avait l'espérance de la résurrection. Puis ça change toute la donne. Faire face à la souffrance, mais avec l'espérance de la résurrection, de l'Évangile, ça change toute la donne.
Amen.
Il y a quelques années, je parlais avec un monsieur qui change mes pneus. Et il me racontait qu'il avait la sclérose en plaques. Et sa manière de faire face à cette maladie-là, il dit, c'est la vie. Il y en a des pires que moi. Et quand il m'a dit ça, je suis venu triste. J'ai dit, c'est sa seule consolation, c'est qu'il y en a des pires que lui. Il vit quelque chose de difficile, puis ça progresse, ça dégénère, cette maladie-là. Puis sa seule consolation, c'est qu'il y en a des pires que lui. Mais j'étais allé voir mon père parce que mon père le connaît bien. J'ai dit, va lui parler de l'Évangile. Va lui donner. Puis mon père est allé lui remettre. Je ne sais pas ce que ça a donné. Mais Tim Keller, il dit, tandis que d'autres visions du monde nous amènent à nous asseoir au milieu des joies de la vie en prévision des chagrins à venir, bien, le christianisme habilite son peuple à s'asseoir au milieu des chagrins du monde pour goûter à la joie. Je trouve que ça fait toute la différence, la perspective, la résurrection, de l'Évangile, qu'un jour le Seigneur va venir nous chercher. Deuxième point, en gardant la joie. Alors, non seulement on doit accepter les souffrances, les épreuves, mais il faut s'en réjouir. Hein? Pierre dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Clairement, ici, il est question de la joie, de participer aux souffrances. Jésus a souffert, mais armez-vous de cette même pensée. On a vu ça un petit peu plus tôt dans le chapitre. Vous allez souffrir vous aussi. Votre maître a passé par là, pensez pas que votre chemin vous va être douillet. Vous êtes appelés aussi à vivre des choses pour le nom de Christ. Il a été jusqu'à la croix pour vous. Vous allez devoir aussi subir des choses pour lui. Et c'est ce que Pierre leur dit. Réjouissez-vous de ça. Prenez part aux souffrances de Christ. Alors, non seulement ils doivent accepter, mais se réjouir. Avoir de la joie. Et ça me rappelle Actes 5, 41. Les apôtres, quand ils sont retirés devant le Sanhédrin, ça dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Et moi, je pense que c'est pas quelque chose qui vient de nous. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui produit cette joie-là en nous. Je ne pense pas que c'est naturel de juste souffrir, d'être content. Je pense qu'il y a quelque chose qui se produit parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Verset 14 le dit bien, hein? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. On a l'Esprit du Seigneur en nous. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, clairement, on voit la persécution dans ce qu'il dit, mais on peut appliquer ça à la souffrance en général. Et je ne pense pas que ça veut dire ici d'être content de l'épreuve, puis de la maladie, puis de quelqu'un qui on perd un être cher, puis de se réjouir parce que je suis content de mes souffrances. Je ne pense pas que c'est cette idée-là. Je pense que c'est l'idée d'être capable de se réjouir en Jésus et dans ses promesses malgré l'épreuve. La tristesse a sa place. Le deuil a sa place. Alors, on peut être triste, porter un deuil, être dans le deuil, tout en ayant cette joie à cause de Christ et des promesses du Seigneur Jésus. Ensuite, en glorifiant Dieu, une troisième étape, accepter, garder la joie et glorifier Dieu. Pierre le dit, si on souffre par notre faute, bien, la honte est... C'est correct d'avoir honte. C'est un sentiment normal si on souffre parce qu'on fait le clown, puis qu'on vit des épreuves, ou peu importe ce qui nous arrive parce qu'on a fait des gaffes, bien, c'est normal d'en avoir honte. Mais si on souffre à cause qu'on est chrétien, parce qu'on veut suivre Christ, qu'on ne veut pas avoir honte de lui, on n'a pas à avoir honte. On va plutôt glorifier Dieu et porter le nom de chrétien fièrement. On devrait toujours glorifier Dieu, peu importe ce qu'on vit comme souffrance. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, peut-être même parmi les chrétiens, qui sont prêts à glorifier Dieu pour la souffrance. C'est facile si on a une épreuve moins importante, mais il y a des gens qui sont vraiment éprouvés, intensément, et sont appelés à glorifier Dieu aussi à travers ça. C'est pas facile à faire. C'est comment glorifier un Dieu qui permet la souffrance? En fait, dans le monde non-croyant, personne ne glorifie Dieu à cause de la souffrance. Ils font plutôt ça à Dieu à cause de la souffrance. Voyons donc. Même certains chrétiens abandonnent la course à cause de la souffrance. J'ai lu, si vous pouvez mettre le prochain, Elie Wiesel, il était dans des camps de concentration. Lui, il a regardé les faux crématoires transformer les êtres humains, même les petits-enfants, en fumée. Puis ça l'a complètement détruit sa foi. Et il dit ceci, « Je n'oublierai jamais cette nuit, la première dans un camp de concentration qui a transformé ma vie en une longue nuit. Je n'oublierai jamais ces flammes qui ont consumé ma foi pour toujours. Jamais je n'oublierai ces moments qui ont assassiné Dieu et mon âme, et transformer mes rêves en tout cela. » Mais il y en avait d'autres chrétiens dans les camps avec lui qui sont sortis avec une foi plus grande. Mais ça peut faire cet effet-là aussi. Et beaucoup sont athées et agnostiques à cause de la souffrance. Parce qu'ils disent, si Dieu existe, il y a de la souffrance, ça ne marche pas. Et c'est intéressant parce qu'il y a une grosse catastrophe qui a ouvert cette route-là au rejet de Dieu à cause de la souffrance, puis c'est le séisme, tu peux t'avancer, Mario, un séisme, un tremblement de terre qu'il y a eu à Lisbonne, en fait, au Portugal, en 1755, c'était sur une échelle la magnitude entre 8.5 et 9, donc un très gros tremblement de terre qui a complètement, ou presque, plutôt presque complètement détruit la ville principale du Portugal, puis ça a tué des dizaines de milliers de personnes. Et il y a plusieurs philosophes de cette époque-là, parce qu'on sait que c'est l'époque des Lumières, hein, où est-ce que là on découvrait la raison, puis qu'on mettait la raison au-dessus des Écritures, puis on remettait tout en question la Bible, puis qu'est-ce que Dieu a dit, puis qu'est-ce que nos ancêtres nous ont dit. Alors, il y a plusieurs philosophes et penseurs d'Europe qui se sont questionnés à propos de Dieu. Ils ont commencé à dire, ouais, mais si ça arrive, est-ce que Dieu existe vraiment? Puis certains ont vu cette catastrophe-là comme une évidence que non, Dieu ne peut pas exister. Dieu d'amour ne peut pas permettre ça. Et Voltaire, vous connaissez, qui est un théiste, il croyait en Dieu, mais pas au Dieu de la Bible. Il croyait en Dieu qui a tout créé et qui nous a laissé nous organiser, puis tout tourne d'elle-même, la terre et tout. Il a écrit un poème suite à ce tremblement de terre. Et je vais vous lire quelques extraits de ce poème-là, parce que ça nous démontre ce qu'eux pensaient, puis on voit encore ces idées aujourd'hui. Il dit ceci, « Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime? Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants? » Parce qu'il y avait des enfants dans ça. « Sur le sein maternel écrasé et sanglant, Lisbonne qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongée dans les délices? Hein, parce que Paris, c'était une ville de péché ou de. Décrit comme ça, hein, plongée dans les délices. Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Et on voit ces mêmes questionnements-là populaires aujourd'hui. Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Pourquoi Dieu a permis de faire ça à ces gens-là? Et on continue, je vais juste lire encore une petite section. Ouais. Pourquoi donc souffrons-nous sous un maître équitable? Voilà le nœud fatal qu'il fallait délier, il faut comprendre. Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même, qui prodigua ses biens à ses enfants qui viennent et qui versa sur eux les maux à pleine main? Quel œil peut pénétrer dans ses profonds desseins? De l'être tout parfait, le mal ne pouvait naître. Ça ne se peut pas que ça vienne de Dieu, que Dieu permette ça. Il ne vient point d'autrui, puisque Dieu seul est maître. Il existe pourtant, ô triste vérité. Et on voit ici cet autre raisonnement populaire-là, hein, comment concevoir un Dieu bon devant la souffrance. Et on se pose cette question-là depuis très longtemps. C'est pas de hier qu'on se demande comment ça, la souffrance existe. Mais là, pour la première fois, officiellement, on a documenté ce raisonnement-là suite au séisme de Lisbonne. Les philosophes et penseurs vont répondre à cette question-là. Puis certains vont dire, non, l'existence du mal démontre l'impossibilité que Dieu existe. Mais là, ça date pas de Lisbonne, cette question-là. On peut même remonter à Épicure, à 340 avant Jésus-Christ. Qui était un philosophe grec. C'est lui qui, ce que je vais vous dire, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est lui qui a commencé à répandre les idées suivantes. Un, il dit, si Dieu est incapable d'empêcher le mal, alors il n'est pas tout puissant. Deux, si Dieu ne veut pas empêcher le mal, parce qu'il y a du mal, alors il n'est pas infiniment bon. Si Dieu, il veut et il peut empêcher le mal, alors pourquoi le mal existe? C'est vrai que Dieu veut. Dans le sens que Dieu, il voudrait qu'on... Il ne voulait pas le mal dans le jardin, puis le péché rentre. C'est vrai que Dieu peut. Alors pourquoi est-ce que le mal existe? Mais la question qu'il faut se poser, puis c'est ça que je pose souvent aux personnes, est-ce que ça se peut que Dieu ait une bonne raison de permettre le mal? Une bonne raison que moi, je ne connais pas. Parce que nous, on raisonne avec notre petit cerveau de trois livres. Et parce qu'on ne trouve pas de bonne raison que la souffrance existe, ben Dieu non plus, il n'y en a pas. Mais là, c'est comme, wow, procure un petit peu. Est-ce que ça se peut que Dieu ait une bonne raison de permettre la souffrance? Je n'ai pas de réponse. Mais la réponse, c'est que oui, il y a une bonne raison. Il y en a une raison. Parce que Dieu existe, puis la souffrance est là, donc il y a une raison que Dieu permette ces choses-là. Alors, il faut arrêter de jouer à Dieu, à se penser supérieur, puis en disant, ben moi, quand je n'ai pas trouvé de bonne raison, Dieu n'en a pas non plus. Alors, Dieu existe. Ne pas comprendre quelque chose à propos de Dieu vient juste nous rappeler qui on est. infiniment au-dessus de nous. Alors, on doit accepter la souffrance, garder la joie. On doit glorifier Dieu, même si on ne comprend pas. Et quatrièmement, en avertissant les autres du jugement à venir. Comment ne pas gaspiller notre souffrance? Bien, en l'avertissant les autres du jugement à venir. Si on revient au contexte de la persécution, notre texte nous dit « Le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Et ça, ce n'est pas évident comme phrase. Mais je pense que Pierre semble avoir en vue la prophétie dans Malachie 3. Et je n'ai pas le temps qu'on tourne, si vous voulez le lire plus tard dans la journée. Dieu vient dans son temple avec un jugement qui a un double objectif. Premièrement, il veut purifier ses adorateurs, ses enfants, ceux qui l'aiment, ceux qui lui appartiennent. Et deuxièmement, il veut consumer les méchants. Donc, il y a vraiment ces deux objectifs-là quand il arrive dans son temple. Et le jugement, là, il commence avec ceux de sa maison, ceux qui lui appartiennent. Verset 18 nous dit, « Si le juste se sauve avec peine, que deviendront les pieux le pécheur? » Et Pierre, ici, ne voulait pas dire que Dieu punissait les croyants à cause de leur péché. Je ne pense pas que c'est ça que Pierre est en train de dire. Mais la souffrance purifie l'Église. Dieu utilise la souffrance pour inciter les croyants à rompre avec le péché, à retourner dans le droit chemin. Et si Dieu permet cette persécution contre ces enfants-là, qui sont attachés sur des poteaux puis enflammés, c'est un jugement qui est de la part des hommes, mais qu'est-ce qu'il réserve à ceux qui le rejettent? Que deviendront les pieux et le pécheur? La persécution devrait nous rappeler que ceux qui nous jugent et qui nous lancent des roches, qui nous mettent sur un poteau pour nous allumer, on ne vit pas ça maintenant, vont être jugés un jour beaucoup plus sévèrement que ce que nous on vit là, présentement. Leur fin va être un châtiment éternel. Alors, il faut continuer d'avertir ces gens-là qui nous persécutent. Ceux qui périssent, même s'ils nous rejettent, même s'ils nous mettent de côté. Et j'ai lu, je ne sais pas si vous avez déjà lu, Jésus plus rien égale tout. Connaissez-vous ce petit livre-là? Mais à la page 163, j'ai lu une histoire de Joseph racontée par Michael Card. Je vous la raconte, j'ai trouvé ça intéressant. C'est quelqu'un qui partage l'Évangile. En fait, il se fait partager l'Évangile. Et tout de suite, il accepte la grâce du Seigneur, puis il est sauvé, né de nouveau. Puis là, il est super excité, il est joyeux, il retourne dans son village pour partager l'Évangile, la bonne nouvelle avec tous les villageois. Alors, il s'en va faire le tour du village, puis il fait du porte-à-porte pour partager l'Évangile à toute sa tribu. Puis là, lui, il s'attendait à ce que tout le monde dise oui, parce que lui, quand il a entendu l'Évangile, il dit « Oui, je le veux », puis il a accepté, puis il a été sauvé. Il dit « Ils vont tous dire oui, eux autres aussi ». Il était sûr que les gens allaient accepter, mais les gens non. Ils ne l'ont pas accepté. Même, ils ont commencé à être violents avec lui. Puis ils l'ont ramassé, puis il y a des hommes qui le tenaient, puis les femmes commençaient à frapper sur lui. Ils l'ont battu avec des brins de fer barbelés. Ils l'ont traîné en dehors du village pour le laisser mort, comme mort. Mais il avait survécu. Puis là, ben, quand il a survécu, il était amoché, il était avec des plaies, puis tout ça. Puis il a retrouvé des forces, puis quelques temps après, ben, peut-être que je n'ai pas été assez clair. Je vais retourner leur dire, je vais essayer d'être plus clair. Alors, il retourne dans le village pour annoncer l'Évangile encore. Il fait le tour des portes, puis encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Les hommes le prennent, puis le tiennent pendant que les femmes du village frappent dessus et ils l'envoient à l'extérieur, ils le lancent en dehors du village pour le laisser là comme mort une deuxième fois. Et là, ben, on pensait qu'elle allait mourir. Quelques jours après, je pense que c'est deux jours plus tard, il finit par se réveiller en pleine brousseur. Il y avait des contusions, des plaies partout. Mais il était résolu de retourner dans le village. Et là, quand il arrive dans le village, il n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, que les villageois ont commencé encore une fois à l'attaquer. Et pendant qu'il le battait, Lui, il leur parlait du Seigneur Jésus en recevant des coups. Il continuait à prêcher l'Évangile, à dire l'Évangile. Puis juste avant de perdre connaissance, il a comme commencé à voir les femmes qui le battaient, qui commençaient à pleurer. Mais là, il a perdu connaissance. Parce qu'avec les coups, puis perte de sang et tout, il s'est réveillé, il était dans son lit. Les femmes qui l'avaient battu, ils essayaient de le soigner pour le maintenir en vie, pour pas qu'il meure. Le village entier avait finalement cru au message de l'Évangile et ont accepté le Seigneur Jésus. À cause de... Voyons, ça fait trop fin qu'il n'y a rien, puis il y a quelque chose à travers ça, puis ça les a touchés, puis ils ont été sauvés. Alors, si Dieu a permis ce châtiment sur ce jeune homme-là, grave, qui en est presque mort deux fois, et même trois fois, qu'est-ce qu'il aurait réservé aux villageois s'il avait continué de le rejeter? Les perdus vont être jugés sévèrement, puis on doit continuer de annoncer l'Évangile. Donc, si on ne veut pas gaspiller notre souffrance, bien, il faut qu'on continue de prêcher l'Évangile, même si on est persécuté, puis qu'on se fait, puis qu'on souffre des fois à cause des gens qui nous mettent de côté. Nos souffrances ne sont pas très physiques et intenses présentement, mais il faut continuer à prêcher l'Évangile. Et le dernier point, c'est juste le verset 19, en continuant de nous confier en Dieu et de faire le bien. On continue de se confier en Dieu. Ainsi, verset 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est mieux. Et on se confie en Dieu parce que c'est lui qui permet ces souffrances-là. C'est lui qui a signé quelque part en disant « Ok, j'accepte. » Comme il a fait avec Job. Il a dit « Ok. » Sauf épargne sa vie. Mais c'est Dieu qui permet ces choses-là. Alors, continuons de nous confier. Il est au courant. C'est lui qui permet. Donc, continuons de nous confier en lui. Alors, je reste avec la question. Est-ce que je vais souffrir un jour? En fait, c'est pas ça la vraie question. Hein? C'est quand est-ce que je vais souffrir? Parce que c'est sûr qu'on va vivre ça. Et je termine avec la citation de Tim Keller. Il dit ceci, il dit, « Quelles que soient les précautions que nous prenons, quelle que soit la qualité de notre vie, peu importe à quel point nous travaillons fort pour être en bonne santé, pour être riche, confortable avec nos amis et la famille, ou pour réussir notre carrière, quelque chose va inévitablement la ruiner. La vie humaine est terriblement fragile. Et soumise à des forces au-delà de notre pouvoir de gérer. La vie est tragique. » Alors, ce n'est pas la question si on va souffrir, mais quand est-ce que Dieu va permettre ces choses-là? Puis quand ça arrive, bien, rappelons-nous qu'on doit accepter ce que Dieu permet, qu'on doit avoir la joie de pouvoir vivre ces choses-là, parce qu'on sait que Dieu les utilise pour nous amener plus loin, qu'on doit glorifier Dieu pendant qu'on est dans ces moments-là, continuer de glorifier, qu'on doit continuer de prêcher l'Évangile à ceux qui nous lancent des roches, qu'on doit continuer de se confier en lui à chaque jour et de faire la vie. Alors, on prie ensemble. Seigneur, merci encore pour ta parole. Père, c'est un sujet tellement difficile, la souffrance. Pas quelqu'un qui parle par expérience énormément. J'ai vécu des moments difficiles, je sais qu'il y a des enfants qui sont terriblement éprouvés, Seigneur, dans les églises. Tu permets ça. On ne comprend pas tout le temps pourquoi, mais Seigneur, on sait que tu as une raison à travers tout ça. On veut te faire confiance. Aide-nous, Seigneur, à accepter, accepter avec joie tout ce que tu permets dans nos vies. Et surtout, Père, qu'on puisse apprendre qu'est-ce que tu veux nous enseigner à travers ce qu'on pense. Parce que le but de toutes ces choses-là, c'est de nous amener à ressembler à Christ. Tu as un but à l'arrière de tout ça. Donc, on ne veut pas de délivrance avant d'avoir compris la leçon, Seigneur. Et en attendant, on a besoin de persévérance, par exemple. C'est ce qu'on te demande pour nos frères et sœurs qui souffrent. On sait que tu as la puissance de guérir, de tout faire. Mais on te demande la persévérance, la patience, en attendant. nom de Seigneur Jésus.